Pendant 15 ans, il y a toujours eu quelqu'un pour nous sauver. Toujours eu quelqu'un quelque part. Quand l'Europe partait en vrille, c'est le Japon qui ouvrait le robinet. Quand l'Amérique toussait, la Chine sortait le chéquier. Quand tout allait mal en même temps, il y avait toujours une banque centrale quelque part sur la planète pour baisser les taux et remettre du carburant dans le moteur. Ou lancer des QI dans tous les sens. Ou inventer un nouveau truc pour éponger les erreurs du système. Aujourd'hui, plus de coussins, plus d'airbags, plus de casques, plus rien. Ces méthodes-là n'existent plus. La Fed va probablement monter les taux le 16 septembre. La BCE montera les taux le 10 septembre. La Banque du Japon montera les taux le 18 septembre. La Nouvelle-Zélande montera les taux demain. Tout le monde, en même temps, et pendant le même trimestre. Et pendant ce temps-là, le S&P 500 est à 1,1% de son record historique. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, du moment exact où le filet de sécurité a disparu sans que personne ne le remarque. Et puis alors, surtout restez jusqu'à la fin, parce que la chose la plus dingue de ces 24 dernières heures, elle s'est pas passée à New York ou à Tokyo, elle s'est passée à Berne. Et on a appris soudainement que notre plus grande banque suisse, enfin celle qui reste, est devenue too big to regulate. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le mardi 1er septembre 2026 et je suis Thomas Veillet. Premier jour de septembre, le mois de septembre, oui, septembre, on sait toujours que c'est pas un mois qui fait très plaisir, c'est le mois que les statisticiens appellent poliment historiquement défavorable et que les autres appellent la saison des crashs.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas tant que ça de la problématique des banques centrales? Parce que chaque banque centrale aujourd'hui est traitée séparément. La Fed a son article et ça préoccupe les ricains. La BCE, on en parle à peine. Le Japon a son petit paragraphe en page 12, mais il faut traduire et c'est compliqué à cause du décalage horaire. Chacun son graphique, chacun son commentaire local, chacun sa case, chacun sa politique. Alors, mettez les Lego les uns à côté des autres et vous verrez que vous aurez tout à fait autre chose. Regardez plutôt, probabilité d'une hausse des taux ce mois aux États-Unis, plus de 60%. Certains disent carrément 70%, plus de 50% au Japon. Et encore, je suis vachement gentil. La BCE est attendue avec un dernier tour de vis en septembre et la Nouvelle-Zélande devrait nous annoncer quelque chose demain matin. Alors, oui, vous allez me dire, on s'en fout de la Nouvelle-Zélande, c'est super loin et puis il n'y a que des moutons. Mais quand même, c'est symptomatique. Tout ça, mis bout à bout, ça s'appelle un resserrement monétaire mondial synchronisé. Et la dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2022, mais allez quand même regarder un chart à l'occasion. Et pourquoi? Et alors pourquoi est-ce qu'ils font tout ça en même temps? Eh bien parce qu'ils ont tous le même problème. Un baril à 91$ qui remet de l'inflation partout, dans toutes les monnaies, dans tous les pays, exactement au même moment. Il y a même une membre du directoire de la BCE, c'est pas n'importe qui est venu expliquer hier que les pressions énergétiques, je cite, « deviennent plus persistantes et débordent de plus en plus au-delà du pétrole ». Traduction pour les gens normaux, c'est plus juste le plein d'essence. C'est l'électricité, c'est le gaz, c'est le transport. Et bientôt, c'est le prix du pain parce que le blé aussi, lui, il a pris l'ascenseur. Bon, alors maintenant, la question à 1000 balles. Pourquoi est-ce que tout ça change quelque chose? Eh bien parce que jusqu'à maintenant, le système fonctionnait comme une équipe de secouristes qui se relayaient quand ça n'allait pas ailleurs. Les banques centrales se refilaient la patate chaude et se soutenaient mutuellement. La croissance des uns relançait le ralentissement des autres et on se donnait la main pour s'en sortir. Et là, visiblement, il n'y a plus personne. Chacun ses problèmes, chacun pour soi. Et c'est fini l'époque des mousquetaires et du un pour tous et tous pour un. Tout le monde serre les boulons en même temps, sur le même trimestre, le trimestre des crashs, et pour la même raison. C'est les femmes et les enfants d'abord, mais mon économie en premier quand même. Il y a donc plus de coussins, plus de filets et plus de marge de manœuvre. Et si vous vous demandez qui reste au milieu de tout ça, la Suisse. C'est le seul endroit sur cette planète où on ne parle pas encore de monter les taux. Alors profitez-en parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et puis alors maintenant, on va parler du truc le plus drôle de la dernière séance du mois d'août. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, donc le monsieur argent de Donald Trump, a expliqué aux Japonais, à la Banque du Japon, qu'il devait absolument monter les taux. Absolument! Pendant que lui, chez lui, il fait absolument tout ce qu'il peut pour faire baisser les siens. Rachat d'obligations, pression, communication, tout le package. Donc en résumé, le message américain aux Japonais, c'est monter les taux, comme ça votre monnaie remonte, comme ça la nôtre baisse, et surtout, surtout, faites jamais ce que nous on fait. On appelle ça de la coordination internationale. Et pendant qu'on y est, Trump, lui, était d'une modération absolument suspecte. On lui a demandé hier ce qu'il pensait de la possibilité que Warsh monte les taux dans 2 semaines, et il a répondu, je cite, « J'ai beaucoup de respect pour lui, et il fera ce qu'il a à faire. » Voilà, c'est tout. Pas de tweet en majuscule, pas de surnom humiliant, pas de menace de licenciement à 3h du matin. C'est tellement peu son style que ça en vient presque inquiétant. Maintenant, on va parler juste un peu chiffres et rendements. Hein. Depuis le 1er janvier, le rendement du 30 ans américain a clôturé au-dessus de 5% pendant 55 séances. 55. C'est le plus grand nombre de clôtures au-dessus de 5% depuis 2006. Et à la mi-août, il a tapé 5,34. À 10 malheureux points de base de son record sur 22 ans. Il a même pas réussi à le battre. Alors tout le monde se dit, oui, mais bon, ça monte à cause de l'inflation. Et quand l'inflation sera sous contrôle et que Warsh l'aura ramené à 2%, tout ira bien. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, comment dire? Ça fait 5 ans et demi qu'on essaie de la ramener à 2%, cette foutue inflation. Et là, tout de suite, avec un pétrole à 90$, une guerre, un des trois qui ne vont pas trouver de solution avant 2047, c'est pas trop là-dessus qu'il faut compter. Le problème est peut-être ailleurs. Oui, parce que Bessent a sorti son bazooka le mois dernier, il veut racheter massivement des vieilles obligations pour faire baisser les taux longs. Très bien. Sauf que le mois de septembre s'annonce avec 215 milliards de dollars d'émissions de dettes d'entreprise. Pour l'instant. Après un mois d'août qui était déjà un record absolu. Au milieu de tout ça, il y a un gérant obligataire qui résumait ça assez bien avec une formule que je trouve quasi parfaite. Les rachats du trésor, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et puis, il faut surtout comprendre qui rachète du tronton. C'est pas les traders. Ce sont les assureurs, les caisses de pension. C'est des gens qui achètent parce qu'ils doivent acheter, pas parce qu'ils trouvent que c'est le bon moment d'acheter. Donc vous avez d'un côté une avalanche de papier et de l'autre des acheteurs forcés et des acheteurs sensibles au prix. Et quand il reste plus que des acheteurs sensibles au prix, il n'y a qu'une chose qui peut se passer, le prix baisse. Et pour le truc fun du jour, on notera quand même que quelqu'un, quelque part, a acheté des options qui parient sur un 30 ans à 5,7% avant le 20 novembre. Alors, je sais pas s'il aura raison, mais s'il a raison, ça va être super drôle ces 2 prochains mois. Attention, je suis pas bériche, hein. Je dis juste que ça va être super drôle. Maintenant, attaquons la partie où je vais vous demander d'être attentif parce que c'est probablement le truc le plus important de toute cette vidéo. Il y a quelques jours, un pape de l'obligataire a expliqué que le vrai niveau de danger sur le 10 ans américain, c'était 4,75%. Alors, si jamais c'est fait, on y est. Et la question suivante, celle que tout le monde se posait en rigolant nerveusement, c'était « Qu'est-ce qui se passe quand le 10 ans japonais dépasse les 3% ?» Ben, ce matin, il est à 2,99%. Et si ça se trouve, il est déjà à 3% à l'heure où je vous parle. Ah ouais, tiens, il est à 3%. Ben tiens, c'est bizarre, hein, il s'est rien passé. Mais quand même, 3% sur le 10 ans japonais. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce chiffre-là compte plus que les autres. Peut-être. Hein. Pendant près de 30 ans, le Japon a donc été le distributeur automatique du monde entier. Le bancomat. Vous empruntiez du yen à 0% et vous alliez acheter n'importe quoi ailleurs qui rapportait plus et vous encaissiez la différence. Des milliers de milliards de dollars ont circulé comme ça sur toute la planète. Ce robinet-là, il est en train de se fermer. Et quand il se ferme, eh ben l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison. Au Japon. Et pour l'instant, visiblement, tout le monde s'en fout. Mais bon, il y a bien quelqu'un quelque part qui va finir par se rendre compte, donc je vous le dis. Je vous le répète peut-être un peu trop, je le conçois, mais je vous le dis quand même. Le reste du monde, il n'est pas mieux loti d'ailleurs. Hein. Tenez, au hasard, nos voisins, le gouvernement français part en séminaire pour préparer un budget avec une dette à 117% du PIB, avec une majorité à 2 balles bricolée par un président qui n'a plus de pouvoir et qui fait que chialer à la télé sur le fait qu'il sera plus là dans 1 an. Son 10 ans se traite aujourd'hui à 4,18, au plus haut depuis 2008, avec une croissance trimestrielle révisée à 0,0%. Et le clown qui leur sert de ministre de l'économie vient nous dire que c'est à cause des feux de forêt et du réchauffement climatique. On se dit que 4,18%, c'est encore vachement généreux, et que la Grèce en 2011, c'était vachement plus sexy. Bon, maintenant, changement de décor. Le sable, la mer, la brise marine, les pétroliers, et l'odeur du kérosène au petit matin blême. Hormuz. Oui, je sais, on en parle tous les matins, mais hier, il s'est encore passé 3 trucs là-bas. Tout d'abord, il y a un pétrolier qui était touché par 3 projectiles non identifiés en sortant du détroit. En deuxième point, les gardiens de la Révolution ont annoncé avoir intercepté un drone américain MQ-9 au-dessus du détroit. En 3, on a appris que la riposte iranienne de dimanche ne visait pas seulement la Jordanie, mais aussi une base aérienne des Émirats Arabes Unis. Et les Émirats et la Jordanie ont parlé d'escalade dangereuse. ce qui est la formulation diplomatique de « les gars, vous vous rendez compte que vous nous tirez dessus, là ?» Trump, dont l'intervalle promet à Fox News qu'on va les frapper fort, tiens, on l'a déjà entendu, celle-là, mais le meilleur, c'est ce qu'a sorti Axios. La Maison-Blanche étudierait des frappes limitées dans le Détroit pour empêcher l'Iran de s'en prendre au navire. Frapper dans le Détroit pour sécuriser le Détroit. 7 mois de guerre, et on en est là. On n'a pas bougé d'un iota, on brasse de l'air et rien ne change. Aucune avancée sur les négociations, aucun traité de paix, du pipeau. Résultat des courses, le Brent est à 91$, le WTI à 86,50$, et le Brent, depuis le 1er janvier, affiche quand même 50% de hausse. Mais je vais vous dire un truc, et c'est peut-être le conseil le plus utile de cette vidéo, arrêtez de regarder le pétrole, momentanément en tous les cas. Parce que le chiffre à surveiller, c'est peut-être le gaz européen, le fameux TTF. Hein. Il a clôturé hier en hausse de 5% sur la séance, au plus haut depuis 3 ans et demi. Alors pourquoi c'est important? Parce que le pétrole, vous le voyez clairement, concrètement, à la pompe. Allez, une fois par semaine, ça pique, vous râlez, mais vous passez assez rapidement à autre chose. Le gaz, vous le voyez pas. Vous allez le découvrir d'un coup en janvier quand la facture de chauffage va arriver, en plus des pneus neige et de l'abonnement de ski. Bon, maintenant, je voudrais juste vous raconter ce qui s'est passé en Californie parce que c'est une leçon de finance à elle toute seule. Edison International, moins 23% sur la séance d'hier. PGI, moins 20%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fraude, résultat catastrophique, le PDG est-il parti aux Bahamas avec la caisse? Rien de tout ça. Les législateurs californiens ont amendé un projet de loi sur les incendies de forêt pendant le week-end en retirant la protection que les groupes cotés espéraient contre les poursuites des victimes des 10 incendies. Un amendement, un quart de la capitalisation boursière volatilisée, en fumée. Pas mal celle-là. Et là, il faut se souvenir ce qu'on raconte aux épargnants depuis 30 ans. Les services aux collectivités, c'est LE secteur défensif. Le secteur des veuves et des orphelins. Un monopole régulé, une facture qui tombe tous les mois, un joli dividende. On met ça dans un tiroir et hop, on dort tranquille. Sauf que, et c'est là le piège, le régulateur qui vous garantit cette rente indirectement, c'est exactement le même qui peut vous transformer en assureur incendie de tout un état par un vote un week-end. Et le plus savoureux, ça fait 18 mois qu'on nous explique que les utilities sont le meilleur moyen de jouer l'IA, parce qu'il faut bien alimenter les data centers. Et ben voilà, on vient de découvrir qu'il y avait des petits caractères tout en bas du contrat, et qu'on avait un peu la flemme de les lire. On va vite parler des trois mouvements les plus importants qu'il faut retenir en ce moment. C'est le premier, pour moi, c'est Schlumberger, le géant des services pétroliers qui vend des foreuses depuis un siècle. Eh bien, il montait quasiment de 5% hier parce qu'il vient de racheter un fabricant de systèmes de refroidissement pour 4,1 milliards. Pourquoi faire? Eh ben, pour se placer sur le refroidissement de, je vous le donne en mille, des data centers. Vous réalisez? Le pétrolier vient de comprendre que le nouveau gisement, c'est la clim. Quand celui qui vend des foreuses se met à vendre des ventilateurs aux gens qui font tourner de l'IA, ça vous dit quand même quelque chose sur l'endroit où l'argent pense qu'il faut aller pour l'instant. Deuxième histoire, Tesla. Meilleure valeur du S&P 500 hier, plus 5,5% en partie sur l'annonce d'une future fonction d'évitement des nids de poules. Tesla a pris 5,5% parce qu'elle va apprendre à ses voitures à contourner les trous dans la route. Il en faut peu pour être heureux. Et puis, troisième et dernier truc à savoir ce matin, c'est Shine qui a fait ses grands débuts en bourse. Et ils se sont pris 7% dans la figure le premier jour. L'introduction valorise la boîte à 26,5 milliards. Quand tu vends de la merde, tu vends de la merde et ça finit forcément par se voir un jour. Mais en 2022, sur le marché privé, souvenons-nous quand même que Shine valait 100 milliards. Autrement dit, les investisseurs qui ont mis du pognon dedans il y a 4 ans viennent d'assister en direct, aujourd'hui à Hong Kong, à l'introduction en bourse de leur propre moins-value de 73%. C'est un moment rare dans la finance, à une époque où on adore les IPO. Et le vrai signal est là, hein. Il faut voir que Shine, ils ont raté la fenêtre d'opportunité tout simplement. Quand tout l'argent du monde ne veut plus qu'une chose, des puces, des serveurs et des gigawatts, ça sert à rien de vendre du textile jetable. On en arrive à l'histoire du jour parce que pendant que tout le monde regardait Wall Street, il s'est passé quelque chose de super important à Berne pour nous. Alors, petit rappel pour ceux qui étaient en vacances en 2023, quand Crédit Suisse s'est effondré, il y avait dans son bilan des instruments qu'on appelle les AT1. C'est des obligations un peu spéciales qui sont censées absorber les pertes en cas de crise. Lors du sauvetage, ces AT1 ont été simplement biffés, réduits à zéro, complètement effacés à cause de l'argent que ça aurait pu coûter à l'UBS. Pendant que les actionnaires, eux, les actionnaires qui sont normalement les derniers à toucher quelque chose, recevaient quand même, pas grand chose, mais recevaient quand même quelque chose. Ça a donc été un scandale mondial, procès sur 3 continents, et toute l'Europe qui a dû réviser sa façon de regarder la dette bancaire suisse. Après cette histoire, on s'était dit, l'État s'était dit, plus jamais. Et donc, il a imposé à l'UBS une exigence de capital supplémentaire d'environ 20 milliards pour être bien sûr que ses filiales étrangères ne puissent plus jamais couler la banque domestique, la grosse banque domestique, la dernière qui nous reste. Hier, la commission de l'économie du Conseil des États a décidé qu'UBS pourrait couvrir jusqu'à la moitié de cette exigence avec des AT1. Oui, les mêmes. Ils ont voté ça à 10 voix contre 2. Donc, 3 ans après avoir vu ces instruments exploser en vol, le Parlement décide que le meilleur moyen de rendre UBS indestructible, c'est de la laisser utiliser exactement l'outil qui a explosé la dernière fois. Et alors, le président de la Commission a précisé avec une prudence magnifique que cette solution, je cite, « ce n'est pas une victoire pour l'UBS ». Bah non, bien sûr que non, évidemment. C'est juste que la dette coûte moins cher que les fonds propres. Qu'accessoirement, ça améliore la rentabilité affichée, et qu'accessoirement aussi, ça n'est pas neutre du tout sur le calcul des bonus à la fin de l'année. Pour le management, bien sûr. Alors, on va appeler ça par son nom, hein. UBS n'est plus du tout « too big to fail », elle est devenue tout simplement « too big to regulate ». Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en ce premier jour de la saison des crashs, comme on aime à l'appeler ? On retiendra que pour la première fois depuis 15 ans, il n'y a plus une seule banque centrale sur cette planète prête à venir vous chercher si vous cassez la gueule. On retient qu'un amendement voté samedi peut effacer un quart d'une société qu'on vous vendait comme un bon placement de bon père de famille. On retiendra aussi qu'une entreprise valait 100 milliards en 2022 et qu'elle en vaut 26 aujourd'hui et que ça s'appelle une introduction en bourse raté. On retient également qu'à Berne, on vient de décider que la meilleure façon de ne plus jamais revivre 2023, c'est de refaire exactement ce qu'on faisait avant 2023. Aujourd'hui, on aura l'inflation de la zone euro à 11h et les JOLTS et l'ISM manufacturier à 16h. Voilà, c'est tout ce qu'il faut attendre. Demain, il y aura d'autres choses et demain est un autre jour. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on partage, on commente et on s'abonne à la chaîne Swissquote en français. Et moi, je vous dis déjà à demain. Très bonne journée. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.